plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, B comme Bresson, Robert Bresson, avec Émilie Coqui et Marcos Uzal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est la statue du commandeur du cinéma français et même mondial. Aussi isolé en son temps qu'influent aujourd'hui, Bruno Dumont et Eugène Green, les frères Dardenne et Alain Guiraudy, Philippe Faucon et Jean-Paul Sivérac, Jia Zhangke et Bellatar, Christophe Kieslowski et Aki Korismaki, le Benoît Jacquot des débuts et même les Paul Schrader et Martin Scorsese, période de Taxi Driver, et avant eux, Jean-Luc Godard et Maurice Pialla, lui doivent tant et plus. Avec seulement 13 longs métrages en 40 ans, des anges du péché à l'argent, Robert Bresson a inventé une œuvre, des tentatives, préférait-il dire, d'une rare cohérence esthétique et morale dont il a consigné les préceptes sous forme d'aphorismes implacables dans ses célèbres notes sur le cinématographe, devenu le bréviaire des cinéastes, qu'ils les appliquent ou non. Sa réputation radicale, austère, pour ne pas dire janséniste, ne doit pas pourtant faire oublier la dimension sensuelle, pour ne pas dire érotique, de ses films, une fête constante de l'œil, de l'oreille et de l'esprit. Parce qu'ils sont plus souvent invoqués que réellement vus, entendus et ressentis, les films de Robert Bresson sont à vivre et à revivre sans cesse. Après les grandes rétrospectives du début de l'été au Festival de La Rochelle et à la Cinémathèque française, et les ressorties en salle des copies restaurées du journal d'un curé de campagne, des Dames du Bois de Boulogne et d'un condamné à mort s'est échappé, voilà que paraissent en DVD et en Blu-ray les dites Dame du Bois de Boulogne, mais aussi Pickpocket et L'Argent. L'occasion pour Plan Large d'étudier de très près le mystère Bresson avec Émilie Coqui, responsable de la diffusion et de la valorisation des collections films de la Cinémathèque française qui a restauré les Dames du Bois de Boulogne, et Marcos Uzal, fin critique et responsable de la programmation film du Musée d'Orsay, qui rejoint en ce jour le phalanstère des chroniqueurs de Plan Large. Bienvenue à lui. En fin d'émission, tout bressonien qu'il soit, Marcos Uzal, il nous parlera dans un tout autre genre de la parution tant attendue du volume 3 de l'intégrale de Midi Minuit Fantastique, la mythique revue première à s'être intéressée en France et en Europe au cinéma de genre. Ceci dit, aujourd'hui, que ce soit bien compris, on ne parlera pas de cinéma, mais de cinématographe.
Je crains que la plupart des films que nous voyons ne sont que la reproduction de quelque chose. Et si vous voulez, pour que nous soyons bien d'accord, appelons cinéma l'ensemble des films d'aujourd'hui et cinématographe l'art cinématographique, c'est-à-dire un art qui a son langage propre, ses moyens propres.
Autrefois, à l'heure du thé, vous m'étiez enfui.
Et on ne rencontrait chez vous que des femmes bavardes. Il y en a d'autres.
D'autres?
Avez-vous revu la Dame du Bois de Boulogne?
Ma foi, non.
Vous avez tort. Vous devriez les revoir, les inviter, leur venir en aide.
Elles vous plaisent, mesdames du Bois de Boulogne?
Elles ne ressemblent pas aux dames qu'on rencontrait chez vous.
Vous avez une seconde vue. Elles ressemblent si peu qu'elles refusent de venir quand je les invite.
Pourquoi?
Par délicatesse, par scrupule.
Elles sont très pauvres.
Elles ont passé sans transition de l'opulence à la gêne, ou presque. Elles y trouvent le bonheur. Elles m'étonnent.
Je les admire. Croyez-vous que je puisse essayer de les voir, de les distraire?
Vous n'y pensez pas. Vous vous trompez complètement sur le genre de cette petite. Et complètement, vous n'y êtes pas du tout. C'est le type de la jeune personne inaccessible. On ne l'approche pas, on ne la tente pas, on n'arrive à rien.
Si j'y allais, elle me flanquerait à la porte.
Vous, square de Port-Royal?
Square de Port-Royal?
Naturellement qu'on flanquerait à la porte.
Il faut donc dire non, ça.
De la sagesse. Chers gens, prenez garde à vos crises, vous courez aux catastrophes. J'ai mieux avoir à vous en garantir qu'à vous en consoler. À demain.
À demain.
Ah. Alors ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas un extrait de Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret, c'est bien Les Dames du Bois de Boulogne de Robert Bresson. Je dis ça parce qu'évidemment c'est adapté du même passage de Jacques le Fataliste et son maître de Diderot, alors précurseur de Cécile de France et d'Édouard Baird. On retrouve Maria Cazares et Paul Bernard. Le rôle était d'ailleurs prévu pour Jean Marais. Ce n'est pas le premier film de Robert Bresson, Émilie Coquille. Il y a eu Les Anges du Péché en 1943, grand succès critique et populaire pendant l'occupation, avec un sujet d'ailleurs très en raccord avec l'air du temps. C'est un sujet hautement religieux, dialogue de Jean Giraudoux, participation au scénario du révérend père Brugberger, même si on y trouve déjà en germe un grand principe bressonien qui est à l'œuvre aussi dans Les Dames du Bois de Boulogne, cette sorte de désir d'absolu qui peuvent aussi bien pousser à la sainteté qu'au crime. Émilie Coquille.
Oui. Alors, Les Anges du Péché est un film tourné en 43, effectivement avec toute une atmosphère religieuse annoncée, etc. Mais il y a un personnage quand même, une actrice dans ce film qui est Jenny Holt. Et quand on s'intéresse un petit peu à la vie de Jenny Holt, eh ben on voit que c'est un film complètement sur la résistance. Jenny Holt est une résistante. Elle va recevoir une croix de guerre quelques années après la libération. Et finalement, ce film qui est extrêmement ironique, hein, c'est l'histoire de femmes criminelles qui vont
dans un couvent,
qui vont endosser une robe pour purger leur peine. On ne sait pas trop si elles croient en Dieu, et finalement, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et ça va être leur relation et la façon dont elles vont dissimuler un petit peu leur identité. Et mine de rien, on retrouve des thèmes qui vont être récurrents chez Bresson, sur la destruction, sur la falsification. Et mine de rien, l'embauche de Jenny Holt n'est absolument pas un hasard. Et ça, les castings de Bresson sont un sujet d'étude qui est inépuisable. C'est-à-dire qu'on a l'impression, donc, dans ses œuvres où il va embaucher des acteurs, que voilà, il y a une forme comme ça, hein, et qu'après, il va faire une rupture et qu'il va donc parler de modèle et qu'il va s'adresser à des premiers venus, des acteurs naturels, mais absolument pas. Un acteur, enfin en tout cas un personnage, un humain n'est pas là par hasard chez Bresson. Et Jenny Holt dans Les Anges du Péché n'est pas là par hasard, tout comme Cazares. Cazares est une belle dame sans merci, c'est une énorme star à l'époque où Bresson entame Les Dames du Bois de Boulogne. Son nom est suggéré par Cocteau, enfin c'est un film aussi qui...
Cocteau qui fait les dialogues officiellement du film, parce qu'il dira après que finalement il n'a pas fait grand-chose, tout était déjà très écrit chez Bresson.
Alors ça, on demande à voir. Alors c'est vrai aussi, là on ouvre aussi quelque chose, c'est que les archives de Bresson sont encore incomplètes ou inaccessibles. La Cinémathèque a mis la main sur un scénario annoté de Cocteau qui était chez Truffaut, mais ça c'est une autre histoire, je peux vous la raconter si vous le souhaitez, mais en tout cas Cocteau était véritablement désiré par Bresson, et ça on le sait par Paul Guth. Paul Guth qui était script, qui était présent sur le tournage des Dames et qui a laissé pour tout bressonien qui s'intéresse au film, un document exceptionnel qui sont des notes de tournage.
Et qui sont rééditées, enfin disponibles, parce que je crois que c'était complètement épuisé, dans l'édition Blu-ray DVD des Dames du Bois de Boulogne.
Exactement. Il existe trois versions. Donc à la Cinémathèque, on a les notes écrites, qui sont d'ailleurs merveilleuses parce qu'elles sont sur un... Paul Guth a recyclé un carnet de souche d'un médecin psychiatre spécialiste des maladies des femmes. Donc c'est troublant. Et donc on voit qu'il fait trois colonnes dans ses notes, et il y a une colonne dédicacée à Bresson. C'est-à-dire qu'on voit que Bresson est un tout jeune homme, hein, quand il tourne les Dames du Bois de Boulogne.
Enfin, pas si jeune, parce qu'il a déjà 40 ans bien passé. Hein. Il est né en 1901. D'ailleurs, la jeunesse de Bresson est l'objet de beaucoup de mystères. Il dira toujours qu'il a commencé comme peintre, mais je crois que personne n'a jamais vu aucune de ses peintures. Il gravite dans un milieu assez chic et élégant autour de Coco Chanel, notamment, donc pas très loin du milieu qu'il décrit dans Les Dames du Bois de Boulogne.
Complètement, et d'où Cocteau. C'est-à-dire que c'est vraiment Coco Chanel qui va le présenter. Il était marié à la sœur de la femme du neveu de Coco Chanel. C'est un peu compliqué, mais on s'y intéresse, on fait semblant, mais en tout cas c'est un
Lydia van der Zee.
Lydia van der Zee. Il va devenir veuf assez jeune, et d'où aussi l'explication d'une certaine richesse et d'une certaine rente qui vont lui assurer. Il va faire des photos pour Chanel. Et dans les années 30, il fréquente le milieu du surréalisme. Et donc c'est tout naturel qu'il se dirige vers Cocteau. Et c'est que Paul Guth, donc on a les différentes. Et ce qui est très... Bon, même s'il a 40 ans, Bresson n'est pas encore un cinéaste très reconnu, mais on sent Goethe à l'instinct qu'il va devenir important. C'est-à-dire qu'il y a des notes complètement maniaques sur Bresson fume 35 cigarettes par jour, Bresson a encore mis son trench dégueulasse. Il s'intéresse aux animaux aussi, c'est-à-dire que Bresson met une attitude toute particulière, enfin une attention toute particulière à Casté le chien, le petit bichon qui est sur les genoux de Maria Cazares.
Qui s'appelle Katsu, pour la petite histoire.
Qui s'appelle Katsu. J'espère qu'on va parler des animaux. Hein.
Mais, on va certainement y venir.
Mais en tout cas, donc toutes ces notes de Paul Goethe sont des ressources inépuisables. Et mine de rien, Les Dames du Bois de Boulogne est un film qui est assez bien renseigné par ces notes-là. Et on voit la souffrance que Cazares. Donc Cazares est un monument du théâtre et du cinéma. Elle est Et Bresson va s'attacher vraiment à la détruire. C'est-à-dire que quand on entend aujourd'hui Binoche raconter comment elle a été traitée sur le tournage de Camille Claudel par Dumont, c'est un peu la même méthode. C'est-à-dire qu'il va en faire une statue de ville. Il veut en faire un personnage déjà vieillissant, souffrant. Il va vraiment la maltraiter.
Et on est aussi à un moment où il a beau la maltraiter, il n'obtient pas tout à fait ce qu'il veut. Et peut-on dire, Marco Souzal, que ces Dames du Bois de Boulogne sont déjà un film bressonien ou est-ce qu'il va falloir attendre un peu ?
Oui, on peut dire que Bresson est bressonien dès le début, mais c'est vrai qu'il y a, à mon avis, un basculement qui est le film quand même suivant, qui est il y a le journal d'un curé de campagne, ensuite Un condamné à mort s'est échappé, qui est peut-être le premier film très très bressonien, Un condamné à mort s'est échappé, mais et on pourrait même remonter avant Les Anges du péché, puisqu'il y a un film qui s'appelle Affaires publiques, alors c'est une rareté absolue, mais qui est intéressant parce que c'est un film quasiment burlesque, avec un esprit un peu surréaliste, qui rappelle un peu les films de René Clair de l'époque.
Avec un jeune Marcel Dalliot qui joue tous les rôles quasiment.
Voilà, et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Bresson commence presque du côté du burlesque, et lui disait admirer énormément Chaplin, et dans le goût du burlesque, il y a un goût du geste, d'une certaine conception aussi de l'acteur, et qui va s'affirmer de film en film, jusqu'à ce film de pur enchaînement de gestes qui est un condamné à mort s'est échappé. Voilà, ce qui est intéressant aussi dans les premiers films de Bresson, dans Les Anges du péché et Les Dames du Bois de Boulogne en particulier, c'est que ce sont des films sur des personnages qui mentent, qui dissimulent, et Bresson a toujours dit que pour lui, l'important, enfin ce qu'il définissait comme le cinématographe, on l'a entendu, c'est un cinéma qui s'opposerait à la représentation, qui serait du côté de l'être plutôt que du paraître. Et le cheminement moral des personnages de Bresson, en tout cas dans ses premiers films, passe comme ça par d'abord le paraître, la dissimulation, et dont on va peu à peu se défaire.
Savez-vous ce que je me demandais il y a un instant ? Je ne devrais pas vous l'avouer, peut-être. Eh bien, je me disais, s'il existait quelque part, en ce monde ou dans l'autre, un lieu où Dieu ne soit pas, dussé-je y souffrir 1000 morts à chaque seconde, éternellement, j'y emporterais mon fils. Et je dirais à Dieu, satisfais-toi, écrase-nous. Ça vous paraît horrible, n'est-ce pas ?
Non.
Comment non ?
Parce que moi aussi, madame, il m'arrive quelquefois.
L'image du docteur Delbande était devant moi. Sur le mien, son vieux regard usé, inflexible. Un regard où je craignais de lire.
Madame, si notre Dieu était celui des païens ou des philosophes, il pourrait bien se réfugier au plus haut des cieux. Notre misère nous précipiterait. Mais vous savez que le nôtre est venu au-devant. Vous pourriez lui montrer le poing. Lui cracher au visage, le fouetter de verge, et finalement le clouer sur une croix. Qu'importe, c'est déjà fait.
Que voulez-vous que je lui dise ?
Dites. Que votre règne arrive.
Que votre règne arrive.
Que votre volonté soit faite.
Je ne peux pas. Il me semble que je le perds deux fois.
Le règne dont vous venez de souhaiter l'avènement est aussi le vôtre et le sien.
Alors que ce règne arrive.
Après le couvent, le ministère du pauvre curé d'Ambricourt, c'est le journal d'un curé de campagne évidemment, première adaptation de Bernanos par Bresson, et se pose une question, Émilie Coquille, est-ce qu'on peut comprendre ou au moins vraiment ressentir les films de Bresson, puisque Bresson disait toujours faut pas comprendre mes films, faut les sentir, faut les ressentir. Est-ce qu'on peut vraiment les ressentir en étant profane, c'est-à-dire en étant étranger à la pensée chrétienne? Il y a dans toute l'œuvre de Bresson la question de la grâce. Le journal d'un curé de campagne finira par ces mots: tout est grâce. Est-ce que on peut les voir sans rien comprendre à tout cet environnement et cette pensée chrétienne?
Oui.
Tant mieux.
Moi, j'ai eu envie d'analyser la filmographie de Bresson d'un point de vue complètement laïque et d'un point de vue plutôt de névrose de classe. Parce que je trouve que L'Argent est un film marxiste et que aussi les symptômes et le clinique décrit dans les films de Bresson correspondent plus à une forme de névrose sociale ou sexuelle que pétri d'un christianisme ou d'un prisme religieux. Alors évidemment, ça a été... Moi, je pense que Godard, en citant Pascal et les pensées, a terrassé tout le monde. Et après, ça a été l'angle de vue le plus évident. Et évidemment qu'il est là, hein, Bresson ne s'en est jamais caché. Et il estime que le cinéma met du Dieu partout. Et voilà, ce serait vraiment renoncer que de pas du tout s'intéresser à ça. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'aujourd'hui, voir les films de Bresson est d'un point de vue beaucoup plus social, hein, et mine de rien, le journal d'un curé de campagne expose une forme de névrose de classe. C'est tout à fait passionnant.
Il y a beaucoup de voleurs.
Beaucoup. Beaucoup d'espèces. Une variété infinie.
Tous les vols ne sont pas aussi graves. Certains sont excusables. Si c'est la pauvreté qui vous pousse.
Bien sûr.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des vols sur lesquels on fermerait les yeux? Tu as toute une théorie là-dessus.
Moi? Dites. Elle n'est pas neuve. Dites quand même. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas admettre que des hommes capables, intelligents, et à plus forte raison doués de talent, même de génie, donc indispensables à la société, au lieu de végéter toute leur vie, soit dans certains cas, libres de désobéir aux lois?
Cela me paraît difficile et dangereux.
Pour la société, ce serait tout bénéfice.
Et qui distinguera des autres ces hommes supérieurs?
Eux-mêmes, leur conscience.
Connaissez-vous quelqu'un qui ne se prenne pas pour un homme supérieur?
Rassurez-vous, ce ne serait que pour les premiers pas. Après, on s'arrête.
On ne s'arrête pas, je vous le dis. Une sorte de voleur utile, en somme, bienfaisant. Mais cher monsieur, c'est le monde à l'envers.
Puisqu'il est déjà à l'envers, cela risque de le remettre à l'endroit.
C'est une rare séquence longuement dialoguée dans ce film qui n'est pas très très bavard, qui est purement visuel quasiment. C'est Pickpocket, un des films les plus célèbres de Bresson, peut-être l'essence même, la pureté absolue de son cinéma. Alors on parlait de névrose et de sexualité, on est en plein dedans. Marco Souzal, c'est le vol à la tire comme métaphore du geste sexuel, la solitude du voleur quasiment onaniste, et qui découvre finalement l'amour.
Oui, parce que s'il y a de la grâce chez Bresson, elle passe de manière éminemment physique. C'est pour ça qu'on peut tout à fait la ressentir en étant profane. Donc ça passe par les gestes, par le toucher. C'est un film vraiment sur les mains. Les mains sont très importantes chez Bresson. C'est que des mouvements de mains. Alors sur la dimension érotique, voire homo-érotique, il y a Chabrol qui n'aimait pas beaucoup Bresson et qui ironisait beaucoup sur ce film en disant que c'était le film où il y avait plus de plan à hauteur de braguette de l'histoire du cinéma, etc. Donc effectivement, ce sont des mouvements constants de mains qui se touchent. Donc on peut y voir une forme d'érotisme qui va être de plus en plus présente, je pense, chez Bresson, dans Hozard Balthazar. Tout d'un coup, il va commencer à filmer des corps nus, des corps féminins, mais aussi masculins, dans Le Diable probablement, de dos, hein, c'est essentiellement les fesses, la partie du corps de nu que Bresson filme. Donc oui, il y a un érotisme, mais qui passe par cette prédominance comme ça du geste, du corps, du toucher, de la sensation.
Et ce geste, il le met toujours en évidence, parce qu'on parle beaucoup de Bresson pour cette voix qu'on entend, hein, ce ton, alors que les épigones de Bresson, ceux qui voudront l'imiter, auront tendance à considérer comme une voix blanche, atonale. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas, mais ces gestes sont mis en évidence par des cadrages très particuliers chez Bresson. Chez Bresson, c'est toujours le principe de la partie pour le tout, quoi. C'est la synecdoque. On va montrer un petit bout qui va signifier tout. C'est un principe d'économie ou de focalisation chez Bresson, Émilie Coquille.
C'est du cadrage anatomique. J'ai le prisme du clinique et de la science, hein, mais je voudrais rappeler que sur le journal d'un curé de campagne, il y a la présence d'Adrien Borel, qui est un psychiatre, qui était le psychiatre de Bataille de Léris, mais aussi de Bresson. Un peu plus tard dans le procès de Jeanne d'Arc, il y a Jean Gilibert, qui est aussi psychiatre. Donc ça fait partie aussi, voilà, des non-hasards, à mon avis, de l'univers bressonien, qui va utiliser l'image comme des cartes à jouer et qui vont se... Ce qui l'intéresse, c'est le contrepoint, c'est-à-dire c'est de... Mais par rapport au profane, etc., je pense que chez Bresson, c'est aussi l'évidence qu'il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire qu'il y a énormément de travail. C'est de l'immédiat, mais répété 50 fois, même 50 fois x2, parce qu'on sait maintenant qu'il peut synchroniser tout et qu'il faisait répéter à ses acteurs exactement, il faisait rejouer le film à l'oral. Donc il n'y a pas de miracle, il y a du travail. Donc effectivement, les cadrages, c'est l'économie, ils dénudent les fils, chaque plan est là pour signifier quelque chose, mais finalement pour s'enchaîner et pour dévoiler ce qui va venir. Birch avait une formule assez jolie sur Bresson, c'est que c'était des bombes à retardement, c'est-à-dire les effets à écho retardé, c'est-à-dire qu'on va repérer quelque chose chez Bresson qui va exploser plus tard. Et ça, dans l'argent, c'est une évidence.
Et on a beaucoup disséqué les montages chez Hitchcock, mais le montage chez Bresson, c'est extraordinaire. Dans Pickpocket, c'est d'une efficacité, c'est un montage qui est sec, abrupt. Il aime souvent le montage presque choc dans l'enchaînement des images, parce que vous parliez de dénuder les films, et après, il faut les raccorder. Et ce qui l'intéresse, c'est le raccord. Émilie Coquille.
Oui, c'est l'étincelle, c'est qu'est-ce que ça peut provoquer, même s'il y a un faux raccord. Ça, ils ne s'en préoccupent pas du tout.
Comment vous êtes-vous porté depuis l'autre jour?
Vous voyez bien comme je suis porté, le mieux que j'ai pu.
Depuis l'autre jour, avez-vous entendu la voix?
Oui.
L'avez-vous entendu dans cette salle où l'on vous interrogeait?
Est-ce de votre procès?
Cela sert au procès.
Je l'ai entendu.
Que vous disait-elle?
Je ne l'ai pas bien comprise jusqu'au retour dans ma chambre.
Que vous dit-elle dans votre chambre?
Je lui ai demandé conseil sur les questions que vous me posiez.
Vous a-t-elle donné conseil?
Sur certains points, oui. Sur les autres, je ne puis répondre sans congé, sinon je n'aurai pas la voix en garant. Quand j'aurai congé de notre Seigneur, je ne craindrai pas de parler, j'aurai un bon garant.
Est-ce une voix d'ange qui vous parlait ou de Dieu sans intermédiaire?
C'est la voix de Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Leur figure porte de belles couronnes.
Comment savez-vous que ce sont ces deux saintes?
Il y a 7 ans qu'elles m'ont prise pour nous gouverner.
Les deux saintes sont-elles vêtues de la même étoffe?
Il y a des révélations qui sont pour le roi de France et non pour ceux qui m'interrogent.
Les deux saintes ont-elles le même âge?
Je ne sais pas.
Parlent-elles ensemble ou l'une après l'autre?
J'ai eu aussi un réconfort de Saint-Michel.
Depuis quand entendez-vous la voix de Saint-Michel?
Je ne vous parle pas de la voix, je vous parle du réconfort.
Laquelle des dites apparitions de Saint-Michel ou des deux saintes vous est venue la première?
Saint-Michel, et il n'était pas seul, mais bien accompagné d'anges du ciel.
Avez-vous vu Saint-Michel et les anges réellement et corporellement?
Je les ai vus avec les yeux de mon corps, comme je vous vois.
Quelle preuve donnez-vous que vous ayez ces révélations de par Dieu?
Croyez-moi si vous voulez.
Croyez-moi, si vous voulez, vous écoutez France Culture. C'est Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma et même du cinématographe. Et dans les notes sur le cinématographe de Bresson, parmi les nombreux aphorismes, on trouve cette définition cinématographe de point continuellement croire. Et on pourrait même dire continuellement imaginer, Marco Souzal, parce que la place du spectateur chez Bresson est essentielle. Il fabrique dans sa tête quasiment l'intégralité du film à cause et grâce aux ellipses fulgurantes de Bresson. Les films de Bresson sont faits quasiment entièrement d'images mentales.
Oui, et je crois aussi qu'il y a quelque chose de musical dans cette utilisation de l'ellipse et de la fragmentation dont on parlait. C'est-à-dire, c'est mental, mais on se laisse totalement prendre par la musique de Bresson. C'est aussi une sensation très physique que l'on ressent, encore une fois, musicale.
Et ça se fait par des espaces qu'on vient d'entendre et également des silences. C'est-à-dire qu'on est dans cette scène d'interrogatoire de Jeanne d'Arc. C'est le procès de Jeanne d'Arc d'après les minutes exactes du procès véritable de Jeanne d'Arc. Et il y a ces silences qu'on entend. Il écrira d'ailleurs Bresson, toujours dans ses notes sur le cinématographe, le cinéma sonore a inventé le silence. Émilie Coquille.
Alors oui, Bresson, on parlait tout à l'heure de son début de carrière, qui est au tout début du cinéma sonore, et effectivement, il se méfie du son, il en fait un allié, mais le silence est très très important. Il prend à rebours ce médium, hein, pour justement le mettre en valeur. Dans Le procès de Jeanne d'Arc, le personnage de Florence Delay, qui a 20 ans, hein, qui va devenir, après la muse de Marqueur, qui va devenir un visage important, c'est l'impact de ces silences, et c'est très parti, c'est-à-dire qu'elle met quand même peu de temps à répondre aux questions qui lui sont posées. Et le montage du film, qui est très court, hein, qui fait à peine une heure, les parties silencieuses, les parties de recueillement, les parties d'isolation démontrent une Jeanne complètement humaine. On peut aussi voir l'importance que ce film a pu avoir sur Dumont. Et combien il est différent du film de Dreyer, qui montre une Jeanne beaucoup plus martyr. Là, c'est une Jeanne.
D'ailleurs, dans les notes sur le cinématographe, Bresson ne parle pas beaucoup des films des autres, ou alors il met des X, il ne dit pas trop ce qu'il a vu, mais alors il parle du Jeanne d'Arc de Dreyer et il dira, je le cite, faute de vrai, le public s'attache au faux. La façon expressionniste dont Mademoiselle Falconetti lançait ses yeux au ciel dans le film de Dreyer arrachait les larmes. Et ça, il trouve que ce n'est pas un bon procédé, ce n'est pas le procédé bressonien du tout.
Et pourtant, la fin de Jeanne d'Arc, on est en 62, enfin, pendant une heure, il y a une forme d'insolence. Elle refuse de laisser ses habits d'homme et de porter une robe. Elle est menacée de viol à 5 reprises dès qu'elle endosse une robe. C'est un personnage féminin extrêmement fort. Et la montée au bûcher est un montage extrêmement intéressant aussi, à rapprocher du cinéma japonais, à rapprocher, enfin, cet empêchement dans cette robe extrêmement étroite, des petits pas qui l'amènent au bûcher et de la longueur de cette prise est tout à fait révélatrice de la volonté de Bresson à mettre en valeur des événements qui a priori n'en seraient pas. C'est-à-dire que d'autres cinéastes s'intéresseraient plus à la montée sur les marches du bûcher, la mise à flamme, etc. Non, lui, il va s'intéresser vraiment finalement, et au seul contre-champ et au regard possible, qui est celui avec un épagneul breton qui est là. C'est-à-dire que là, on entame la partie sur les animaux.
Voilà que les animaux arrivent à nouveau. Et effectivement, cette marche au bûcher est extraordinaire parce que Bresson va demander à son producteur des centaines de figurants pour huer, houspiller Jeanne d'Arc sur son passage. Et lui va ne filmer que les pieds de Jeanne allant bûcher. Mais il avait besoin de cette ambiance autour de lui. Alors, retour encore à la sexualité, au corps de Jeanne d'Arc, parce qu'il y a une obsession de ses juges et des Anglais pour sa virginité qu'il va falloir profaner. Il y a des plans très étonnants, Marco Suzal, de voyeurisme. On regarde par le trou de la serrure et Jeanne, en retour, regarde et nous fait face.
Oui, alors ça renvoie aussi à une autre question très importante chez Bresson, qui est la question des portes, de ce que l'on ouvre, les portes que l'on ouvre, que l'on ferme, ce que l'on dissimule et dévoile constamment chez Bresson, qui a un rapport très fort avec son montage et la place de spectateur dont on parlait tout à l'heure, dans laquelle nous met ce cinéma, où on nous demande comme ça d'avoir un regard aigu, acéré et constamment, et qui peut passer effectivement par un sentiment de voyeurisme, en tout cas par une représentation d'une forme de voyeurisme chez certains personnages.
Alors, vous vouliez des animaux, en voici.
Oh Jacques, combien de fois j'ai rêvé de toi, d'un garçon comme toi. Honnête, un peu nigaud, qui venait me chercher et me disait « Viens, sois à moi, ne crains rien, ce n'est pas de ta faute. »
Qu'est-ce qui n'est pas de ta faute?
Mais aussi qu'elle réveille, à devenir folle. Maintenant, tu sais tout. Et tu veux m'épouser?
Oui.
Plus tard, tu auras honte de moi.
Non.
À aucun moment, tu ne me feras de reproches?
À aucun moment.
Tu t'engages pour toute la vie?
Oui.
Mais Jacques, le mariage, c'est périmé?
Nous nous marierons quand même. Nous serons pauvres au début, je travaillerai deux fois plus.
Tu m'ennuies.
Te fâche pas.
Toi, tu vois l'allée, le banc, nos deux noms sur ce banc, nos jeux avec Balthazar. Mais moi, Jacques, je ne vois rien. Je n'ai plus de tendresse, plus de cœur. Je suis insensible. Ce que tu me dis sont des mots, ils ne me touchent plus. Nos serments d'amour, les promesses enfantines que nous nous étions faites, c'était dans un monde imaginaire. Pas dans la réalité. La réalité, c'est autre chose.
La réalité, c'est autre chose. Ça pourrait résumer un peu tout le cinématographe de Bresson. C'est évidemment Au hasard Balthazar, Anne Wiazemski qui joue Marie et qui racontera d'ailleurs dans son livre Jeune fille tout ce tournage et cette relation étrange qu'avait Robert Bresson avec ses modèles. Il fera plusieurs d'ailleurs le raconteront. Hein. Il les protège, il les cajole, il est complètement amoureux de ses modèles pendant le tournage, et puis après, il s'en désintéresse complètement. Il va souvent faire en sorte d'ailleurs qu'il fasse plus du tout de cinéma après lui. Hein. Seul Anne Wiazemski, un peu Florence Delay avec Marker, Isabelle Weingarten, qu'on retrouvera chez Jean Eustache, arriveront. Et puis évidemment, Dominique Sanda, révélée par Une femme douce, qui elle fera un peu plus de cinéma. Mais qu'est-ce qui se joue dans le rapport de Bresson à ses modèles, Émilie Coquin?
Je pense que ce qui l'intéresse, c'est de révéler. C'est-à-dire, évidemment, il choisit, on l'a dit pas au hasard, en fonction de la vie et de la rencontre avec les personnes qu'il souhaite filmer. Quand on regarde tous les films de Bresson à la suite, on voit que Pickpocket, le personnage incarné par Marika Green, qui ne fera pas grand-chose après, peut-être qu'elle a été empêchée. C'est-à-dire que Bresson, effectivement, se désintéresse, mais pas tant que ça, puisqu'il empêche. Il promet d'autres rôles. Voilà, Anne Wiazemski raconte qu'il aurait souhaité lui confier Lancelot du Lac, le rôle de Guenièvre, mais qu'il fallait qu'elle ne tourne avec personne d'autre. Et comment dire non à Godard? Et elle a bien eu raison. Mais je pense qu'il a ce côté de un petit peu chasseur, hein, de voilà, et empailleur, ce qui n'est pas un très joli terme, ou taxidermiste. Mais en tout cas, il aimerait que la personne qui a été filmée pour la première fois avec lui garde finalement cette justesse et incarne ce rôle jusqu'à la fin de ses jours, et que ça ne devienne pas un métier, qu'elle n'incarne pas, qu'elle ne prête pas sa plastique à un autre rôle, à incarner un autre personnage dont il n'aurait pas écrit l'histoire. Ça, je pense que c'est véritablement très très important par rapport à Bresson. Au hasard Balthazar est un film crucial dans la carrière de Bresson, parce que le parallélisme entre l'histoire de cette jeune femme Marie, et du petit âne Balthazar. Voilà, c'est un chemin de croix, c'est un calvaire qui va être parallèle. Mais mine de rien, ce qu'il va faire avec l'âne, il va essayer de filmer ce qui s'appelle le corps profond. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse chez les animaux, finalement, c'est que un animal, ça ne triche pas. Un animal, ça a faim, ça a mal, ça ne va pas tricher. Et finalement, bon, on va pas dire qu'il aurait aimé tourner des snuff movies, mais il y a quelque chose comme ça chez Bresson. C'est que dans la façon dont il a de diriger ses acteurs, il va chercher quelque chose de profond, quelque chose qui est une forme d'inconscience, mais qui en même temps est présente et véritablement cruciale dans l'organisme.
Mais c'est cette image que reprendront d'ailleurs après lui des Straub et Huillet, par exemple. C'est comment filmer le vent, comment filmer, alors l'équivalent du vent, ça serait l'âme chez ces modèles. C'est-à-dire que pour filmer le vent, on va filmer la vibration des feuilles ou la trace du vent sur le sol. Et c'est ce qu'il va essayer d'obtenir chez ces modèles, Marco Suzal.
Oui, je crois qu'il cherche une forme de pure présence au monde. Et il cherche ça même chez ses acteurs, chez ces modèles, donc il essaie de les dénuder totalement de toute arrière-pensée, de toute forme de psychologie, et c'est pour ça, je pense, qu'il rechigne toujours à reprendre les mêmes modèles. Enfin, d'une certaine manière, il y a presque une idée de virginité chez les modèles qu'il utilise. Je me souviens d'un cinéaste qui est Alain Cuny, qui avait réalisé un seul film d'après l'annonce faite à Marie, un film très bressonien, et il y a un film de Jean-André Fieschi sur le tournage du film de Cuny où il dit: je cherche une actrice qui n'a jamais mangé de chewing-gum. Et je pense que Bresson aurait pu dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire essayer de vider totalement les personnages, enfin vider, c'est un terme un peu négatif, mais ça passe par une forme de violence aussi, je crois, de leur oui, de leur passé, de leur de tout ce qui les sépare de leur être, quoi, qui serait de l'ordre du paraître. Et il y a, je pense, un des plus beaux making-of de l'histoire du cinéma, c'est le petit making-of qui avait été fait par la télévision sur le tournage de Mouchette. Et là, il y a des acteurs, des modèles qui parlent, et ce qu'ils disent sur Bresson est d'une très grande violence. contre Bresson. Et en même temps, ils le disent avec une forme d'admiration pour lui. On dit, d'une certaine manière, de dire ce tournage est invivable, mais c'est un génie, il y a quelque chose comme ça. Donc on voit, à travers les témoignages de ces modèles, que ça passait par une forme de violence, enfin que ça leur faisait violence de tourner avec Bresson.
La suite du film montrera que, quand il le faut, Mouchette chante très juste. Mouchette, c'est voilà l'adolescente rebelle, seule contre le monde entier. On voit ce que la Rosetta des frères Dardenne lui devra plus tard. Effectivement, on parlait, vous l'avez dit, je crois que c'est Marie Cardinal qui raconte dans ce reportage télévisuel sur le tournage de Mouchette à quel point c'est épouvantablement difficile, mais que c'est un génie absolu. Et certains vont reprocher, même son chef opérateur, par moment, un certain sadisme, le principe de plonger des jeunes filles dans des situations dégradantes. Combien de viols dans les films de Bresson, combien de suicides aussi, Émilie Coquille.
On sait aussi que pour Mouchette, la jeune actrice qui a été dénichée par Jacques Kébadian, jeune assistant réalisateur sur le tournage qui, encore une fois, quand on connaît, donc on est en Mouchette, on est en 67, Kébadian en 68 sera dans les rues de Paris à filmer les manifestations. Donc quand on voit aussi quand on entend le discours caché de Mouchette, on comprend que peut-être la recrue de Kébadian n'était pas un hasard. Kébadian va trouver
le. Elle s'appelle Nadine Nortier.
Nadine Nortier. Et apparemment, Kébadian raconte que Nadine Nortier faisait deux ou trois prises. Et elle était juste. Donc c'était bon.
C'est très rare chez Bresson.
Extrêmement rare. Donc oui, Bresson aime à filmer de toute façon un thème qui va se retrouver dans tous ses films et lié au personnage féminin, c'est la normalisation. On en parlera peut-être plus tard dans Une femme douce, mais c'est Procuste, c'est-à-dire qu'on met les femmes dans un... Procuste était, voilà, c'est une légende grecque qui accueillait les gens chez lui, dans un divan, et si les gens étaient trop longs ou trop courts, il coupait ou il rallongeait les pieds. Bresson, ce qui l'intéresse, c'est la normalisation. Et Mouchette en est un parfait exemple. C'est-à-dire que Mouchette chante faux à l'école, mais en situation dans la forêt, pour se rassurer, pour rassurer un épileptique violeur, elle va chanter extrêmement juste. Donc oui, combien de situations de normalisation, de régression sociale, c'est un thème qui va extrêmement bouleversé l'œuvre de Bresson. Par rapport au fait de retourner avec les mêmes acteurs, je voulais préciser aussi que ce qui intéresse Bresson, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'il ne veut pas... Il y a un film en costume, mais ça ne l'intéresse pas de dater ses films. Et je pense que de refaire appel à un acteur qui aurait, une actrice qui aurait vieilli, est quelque chose qui le terrifie. C'est-à-dire qu'il ne veut pas montrer un signe du temps qui passe. Il veut que ses films soient atemporels.
Et pour autant, il n'est pas hors du temps. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand on voyait Florence Delay en Jeanne d'Arc, on voit cette jeune Nadine Nortier ou Anne Wiazemski, c'est qu'il filme malgré tout des jeunes filles de l'époque et que qu'il le veuille ou non, il le veut probablement, il capte quelque chose du temps de ses films, Marco Suzanne.
Oui, puis je crois que c'est un cinéaste qui s'est énormément intéressé aussi à la jeunesse. Voilà, dans beaucoup de ses films, ces personnages sont des jeunes gens. Et dans ses films un peu plus tardifs, comme Le Diable probablement ou 4000 un rêveur, c'est vraiment des films sur la jeunesse de l'époque, saisie comme peu d'autres cinéastes l'ont saisie. Donc ce vieux cinéaste dans les années 70... oui, capte cette jeunesse d'âme de l'après 68, une sorte de désillusion un peu romantique comme ça, avec une force rare.
Émilie Coquille.
Oui, les films de Bresson peuvent être considérés comme anti-autoritaires et dénonciateurs d'un système et annonciateurs d'une forme de révolte qui va secouer la France en 68. Par rapport à ces personnages de femmes, moi je trouve aussi que ce qui m'intéresse dans ces films, c'est que ce sont des personnages en sidération. C'est-à-dire que là, et là on reparle aussi du clinique, Mouchette a été violée, donc ce n'est pas un personnage martyr, mais c'est un personnage qui essaye de survivre et qui essaye aussi de le final de Mouchette où elle refuse la robe de mariée et elle dit non, je ne vais pas me marier, je ne vais pas rentrer dans votre système, et je préfère me tuer et bien le faire et mettre trois fois à me suicider. Ce qu'il a d'ailleurs le mouvement de caméra, la robe de mariée, m'a fait penser à la Talente, hein, Vigo, et peut-être pas si loin que ça. L'application qu'elle met à se tuer, bon, voilà, c'est tellement aussi révélateur, et on peut, avec délectation, imaginer la vision de ce film par Eustache, ou d'un Godard, et qui va s'en servir et qui va utiliser après comme un dictionnaire et se référer à Bresson.
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te gitur clementissime pater, per Iesum Christum filium tuum dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta abeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. In primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica,
je te ferai partir. Si, avec moi, c'est faisable. Dans la salle du rez-de-chaussée où sont entreposés les sacs de toile. J'ai un bilan. Si t'es libre, je m'occuperai de toi. Je le rachèterai. Je te jure devant Dieu sur tout ce que tu voudras. Je te tuerai, Lucien, plutôt que de partir avec toi. Ni toi ni moi, nous sommes des assassins. Probablement des salles du bloc à n'avoir personne sur la conscience.
Ut placatus accipias.
Mais toi, tu as moi sur ma conscience. Il faudra maintenant que tu en répondes.
Ad aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari, per Christum Dominum nostrum.
Vous êtes bien sur France Culture, vous écoutez Plan Large sur Robert Bresson. C'est un extrait de L'Argent, le dernier film de Bresson. Entre-temps, il y en a eu d'autres et pas des moindres, qu'on a cité, Une femme douce, Quatre nuits d'un rêveur, Lancelot du Lac et Le Diable probablement. La question du mal chez Bresson, M.A.L. et M.A.L.E. on pourrait l'étudier aussi, mais était plus diffracté, on dira, dans ses films précédents, dont Hasard, Balthazar, tous ces gens qui s'acharnent sur le pauvre âne. C'est un mal un peu misérable, un peu pathétique, un peu grotesque. Là, c'est le mal absolu avec un grand M, c'est l'argent. Ce sont ces billets de banque que va filmer Bresson avec ces cadrages, justement, dont on parlait tout à l'heure, Émilie Coquille.
Oui, le mal, la contamination. C'est-à-dire quand on voit un film comme L'Argent, qui date de 1983, on peut penser aussi à une maladie de contamination. Hein. C'est-à-dire que l'argent est finalement filmé aussi comme une forme de sida. Un faux billet va passer de main en main et causer la perte d'une personne. Et là, il faudrait peut-être rappeler aussi les adaptations littéraires. C'est-à-dire que Bresson est fasciné par la littérature russe, hein, par Tolstoï, Dostoïevski, par cette persécution faite sur l'humain. On évoquait la névrose de classe. Bon, l'argent en est un exemple. Et de voir comment l'accablement produit et cet effet domino irrémédiable sur une personne. L'aliénation, Pickpocket amorçait par Etex et Kasagi, qui étaient des professionnels du geste. C'est aussi toute cette transaction, tout cet échange de mains. C'est aussi une forme d'aliénation et de rapport au travail et au geste et à l'automatisme. L'automatisme est un thème qui vient des surréalistes et qui fait aussi réagir et dynamiter le cinéma de Bresson.
Et l'aliénation passe aussi par la façon qu'a Bresson de filmer les objets. On a souvent l'impression que les objets, l'inanimé et ses modèles, le vivant, sont presque mis à égalité. Il y a une façon de rendre très vivante ces objets, Marco Suzanne.
Oui, on parlait de cet aspect physique tout à l'heure chez lui, c'est-à-dire que les objets ont effectivement une sont aussi une pure présence comme ça, de la même manière que les animaux, de ce qu'ils recherchent sur les, chez les modèles. Donc effectivement, même dans ce travail sur les modèles de dénudement, il y a peut-être aussi l'idée de les mettre effectivement même au même niveau que les objets, mais pas dans un sens négatif, dans le sens, encore une fois, de la présence matérielle des choses. Voilà, il y a des mouvements d'objets extraordinaires chez Bresson, et parfois même un peu ironique. Il y a dans une femme douce ce moment où des personnages, on parlait de l'argent et de l'or tout à l'heure, séparent comme ça un Christ de son crucifix. Il garde la partie en or, il offre le crucifix à sa femme. Voilà, en un objet, tout est dit de rapport entre cette femme et cet homme, et aussi de ce rapport à l'argent qui est effectivement le mal absolu chez Bresson. Mais ça apparaît dès au hasard Balthazar, avec le personnage de Klossowski notamment.
Pierre Klossowski, oui, qui joue le marchand de grains avare et libidineux. Ça sera le dernier film de Bresson, dernier plan tourné par Bresson. On voit des spectateurs en ombre chinoise quasiment qui regardent un écran blanc. Quelle postérité de Bresson qui est bressonien aujourd'hui, Émilie Coqui?
Bon, on les a cités un petit peu au début, mais c'est Schrader vient de tourner un remake du journal d'un curé de campagne, Dumont bien évidemment pour le cinéma français, mais même au-delà de la France, hein, que Bellatar, évidemment, Tia Ming Liang, le cinéma de Bresson est comme ça une forme de lexique utilisé et présent dans beaucoup. Et ce qui est amusant aussi, c'est quand on regarde ces 13 films, hein, on peut très bien faire ça en une semaine, de voir tous le cinéma de Bresson. Et ben après, on a tendance à voir du Bresson partout et à repérer comme ça des effets dans des films qui seraient plus ou moins inattendus quand on voit l'argent, au niveau des couleurs, au niveau de cette scène de massacre d'une famille, d'une caméra comme ça un peu steadicam, déambulatoire. On peut évoquer Shining de Kubrick sans aucun problème.
Carrément.
Oh Jeanne, pour aller jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu prendre.
Merci Émilie Coqui. Inutile de prendre de drôles de chemin pour aller jusqu'à Bresson. Il suffit d'aller au cinéma où on peut voir sur grand écran actuellement les versions restaurées du journal d'un curé de campagne, d'un condamné à mort s'est échappé et des Dames du bois de Boulogne. Également disponibles ces Dames en DVD et en Blu-ray chez TF1 Studio dans sa collection Héritage, accompagné donc de ce livre devenu introuvable autour des Dames du bois de Boulogne, journal d'un film de Paul Guth. Ce document vraiment exceptionnel pour observer Robert Bresson au travail. En DVD Blu-ray également, Pickpocket et L'Argent, c'est chez Potemkin. Et puis pour savoir comment on restaure Bresson, vous pourrez réécouter Mylène Bresson, sa femme et terrible gardienne du temple, qui était l'invitée de la grande table d'été, c'était le 27 juillet dernier. Côté réédition, on vous recommande deux grands classiques, sortis mercredi, et une rareté. Les classiques, ce sont L'année dernière à Marianne Bad d'Alain René, et puis La religieuse de Jacques Rivette, et la rareté Rue des Cascades de Maurice Delbé. Toutes ces informations et plus, comme toujours, grâce à Pascaline Bonnet sur la page, Plan Large du site franceculture.fr. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Après B comme Bresson, on saute à M comme Midi, Minuit, Fantastique.
Théâtre de l'étrange. Jamais je n'ai pu retrouver la rue d'Auseuil. J'ai examiné les plans de la ville avec le plus grand soin, et mes recherches ne se sont pas limités aux plans actuels, car je sais que les noms changent. J'ai interrogé tous les témoignages anciens sur la ville. J'ai exploré tous les quartiers, quels que fussent leurs noms, qui pouvaient receler une rue d'Auseuil. Malgré tous mes efforts, je ne peux retrouver ni la maison, ni la rue, ni le quartier de cette ville, où pendant les derniers mois de ma précaire existence d'étudiant en métaphysique à l'université, j'entendis la musique d'Eric San.
Que faisait-on le dimanche soir dans les années 60? On écoutait le théâtre de l'étrange sur France Inter. Et le 21 février 1965, on écoutait la musique d'Eric Zahn, pièce radiophonique avec Jean Taupard, d'après Lovecraft. L'objet figure avec une autre dramatique et 6 courts-métrages dans un DVD qui accompagne le très attendu volume 3 de l'édition intégrale de la revue Midi Minuit Fantastique. Pendant que Bresson faisait le procès de Jeanne d'Arc en 1962, 4 cinéphiles Déviant, Michel Caen, Alain Lebris, Jean-Claude Romer et Jean Boulet créent la première revue européenne dédiée au cinéma de genre, fantastique, science-fiction et érotisme. 24 numéros en 10 ans d'existence pour promouvoir une politique des horreurs et plus largement une contre-culture défendue dans ses pages par d'éminents critiques comme Claude Belli, Raymond Borde, Bernard Eisenschitz et Francis Lacassin, et puis aussi des invités tout aussi prestigieux, Jeanne Ionesco, Roland Topor ou encore Boris Vian. Ce troisième volume, toujours dirigé par le passionné Nicolas Stanzik, regroupe les numéros 12 à 17 de mai 1965 à juin 1967, soit pour les couvertures d'un homme amphibie sorti tout droit de chez Jacques Tourneur, à la toujours troublante Scream Queen, Barbara Steele, Marco Souzal.
Oui, Antoine, il faut d'abord saluer la qualité de cette réédition, parce que l'éditeur Rouge Profond et Nicolas Stanzik est donc le maître d'œuvre de ce formidable projet. Ils ne sont pas contentés de publier des facsimilés, mais ils ont fait en quelque sorte un vrai travail de restauration de Midi Minuit Fantastique, notamment en retrouvant les photographies originales. Et c'est ce qui frappe quand on ouvre ces volumes, c'est la beauté des photographies et le nombre incroyable de photographies qui sont essentielles dans cette revue qui était consacrée à des genres éminemment picturaux, plastiques, et qui étaient photographies aussi propres à nourrir bien des fantasmes cinéphiliques et érotiques, d'autant plus à une époque, bien avant Internet, les DVD, les VHS, où ces films étaient rares, parfois quasi invisibles, et où donc les photos permettaient de les rêver, les fantasmer, avant même que de les voir. Et Midi Minuit, vous en avez cité quelques noms, réunissait des auteurs venus d'horizons très différents, notamment des deux grandes revues ennemies de l'époque, Positif, avec des auteurs comme Paul-Louis Tirard, Louis Seguin, Frédéric Vitoux, mais aussi des cahiers du cinéma comme Claude Bailly, Bernard Eisenschitz. Et en relisant tous ces numéros, on s'aperçoit aussi combien c'était une revue exigeante, avec un goût souvent très sûr. Elle a donné ses lettres de noblesse à un cinéma qui était alors souvent méprisé, à travers ses meilleurs représentants, Fischer, Bava, Chaudsac, Tourneur, Corman, mais aussi en ne s'isolant jamais du reste du cinéma, en démontrant par exemple que l'on pouvait tout à fait à la fois aimer Fischer et Godard, Bava et Pasolini, et Bresson aussi, pourquoi pas, Peeping Tom de Michael Powell, et La religieuse de Rivette, qui est ardemment défendue dans un compte-rendu de Cannes 1966. Et un autre aspect très passionnant de la revue, ce sont ses entretiens, souvent longs et fouillés, avec des cinéastes, des acteurs que peu allaient rencontrer à l'époque. Et dans ce volume, on a des entretiens passionnants avec Jacques Tourneur, Edgar Ulmer, Karel Zeman, Jean-Pierre Mocky, qui était encore un jeune cinéaste assez peu considéré, Christopher Lee, et puis l'actrice Barbara Steele, que vous avez évoquée, qui était en quelque sorte la muse de la revue, hein, cette actrice au visage félin révélé par Bava dans Le Masque du Démon. Michel Caen disait, sans doute en exagérant un petit peu, qu'il avait créé cette revue pour pouvoir rencontrer Barbara Steele. Alors non seulement il l'a rencontrée, mais il semblerait qu'il ait eu aussi même une aventure avec elle. Et on constate aussi dans ce troisième volume que la revue s'est de plus en plus ouverte à d'autres disciplines, en publiant par exemple des nouvelles de Sternberg, Jacques Sternberg ou de Topor, de la bande dessinée, Philippe Drouillet, Guy Pellart, et en s'intéressant aussi à des happenings d'Arabal ou de Jodorowsky. Ils s'entrecroisent ici, en ce milieu des années 60, toute la galaxie qui est liée à l'éditeur de la revue Eric Losfeld et à sa fameuse librairie Le Minotaure, donc la revue Bizarre, les amateurs de BD pour adultes, d'érotisme, les néo-surréalistes, le groupe Panique, etc. Et autour de cette revue gravitent aussi d'autres noms que vous avez cités, comme Ionesco, Hadouk Kirou, aussi Alain Resnais, Chris Marker ou Pierre Caste.
Ici Tour de Contrôle, Astroport de Titan, Saturne 6. Astronef en orbite, annoncez-vous.
Astronef, Berenice 2, de nom autorisés non d'atterrir sur Périon Saturne 7.
Autorisation accordée. Commencez immédiatement votre approche.
Message reçu. Je vous posais.
Tout commença il y a 20 ans, c'est-à-dire pour moi il y a 2 heures. J'étais alors dans un état indéfinissable dont seul un vieux mot du langage de poète peut rendre la saveur, le spleen. Les premiers hommes volants avaient su franchir le mur du son et le mur de la chaleur. Les premiers cosmonautes, il y a des siècles, après avoir sauté de planète en planète, s'étaient heurtés aux parois de la plus vaste cage de toute l'histoire de l'humanité. Au-delà du mur de la lumière, des millions de mondes inconnus palpitaient faiblement, inaccessibles.
Voilà, vous venez d'entendre un extrait de La Brûlure de Mille Soleils, qui est un court-métrage d'animation écrit et réalisé par Pierre Caste, qui est un cinéaste qu'il faudrait un jour réhabiliter. Et la voix du robot au tout début, c'est celle de Chris Marker, qui est aussi le monteur du film. Et c'est d'ailleurs un film qui se revendique comme une sorte d'hommage à La Jetée de Marker. C'est un film qu'on trouve dans le DVD qui accompagne ce troisième volume de l'intégrale Midi Minuit. On y trouve aussi des tas d'autres choses intéressantes, comme un documentaire sur Jean Boulet, personnage fascinant, qui était à la fois dessinateur, collectionneur, mystificateur, et qui avait commencé à réaliser un film, un projet assez fou qui a pris des années, qu'il n'a jamais achevé, qui était une adaptation de Dracula en ombre chinoise. Donc le peu qui reste de ce film, les quelques minutes qui restent, sont présentes aussi sur ce DVD. Parmi les courts-métrages, il y en a un qui m'a frappé, c'est Ténèbres de Claude Loubary, qui n'a fait que 2 courts-métrages, et qui était visiblement aussi une personnalité très étrange, avec des problèmes mentaux qui l'ont conduit à une paranoïa extrême et au suicide. Ce que raconte à peu près ce film, très 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 étonnant. Il y a aussi un texte d'Ediscope, très beau, une préface d'Ediscope, et puis un texte de Nicolas Stanzik qui est assez émouvant, parce que Nicolas Stanzik était au Bataclan le 13 novembre 2015 et le jour des attentats, et il raconte comment, d'une certaine manière, c'est son imaginaire qui l'a sauvé pendant les 100 terribles minutes qu'il a passées au milieu des cadavres. Et il dit une chose très belle, il dit combien l'horreur des films qu'il adore, ce que célèbrent les pages de cette revue qu'il réédite, n'a rien à voir avec l'horreur réelle qu'il a vécue, et qu'elle en est même une sorte d'antidote. Et donc cette revue représente une forme de résistance à l'obscurantisme, à la violence aveugle, au puritanisme, et à tout ce qui étouffe le pouvoir ô combien salvateur de l'imaginaire.
Merci Marcos. L'édition intégrale de Midi Minuit Fantastique, 752 pages et 800 photos, est éditée par Rouge Profond. Et pour en savoir plus, on se reportera utilement au mauvais genre de notre ami François Angelier, qui avait chanté en compagnie de Nicolas Stanzik la revue mythique. C'était le 8 septembre dernier. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Jean Frédérics, le diable probablement. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Manina.